Fertile Minds, the Barcelona IVF podcast.
Bonjour Clotilde, merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast de Barcelona IVF.
Bonjour Lisa, merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est avec grand plaisir que je vais passer quelques instants avec toi et avec tous ceux qui nous écoutent.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs et à nos auditrices et puis peut-être nous parler de ton parcours personnel aussi?
Oui, alors je suis Clotilde Averna, je suis hypnothérapeute spécialisée dans les troubles de la fertilité, les parcours PMA, la grossesse et beaucoup plus largement la libération du poids du passé et la gestion des émotions. Par rapport à mon parcours, moi aussi je suis passée par plusieurs années de PMA pour avoir ma fille il y a une dizaine d'années maintenant. Et lorsque ma fille a eu 15 mois, j'ai repris les traitements pour avoir mon deuxième enfant. Et c'était hyper important pour moi d'avoir deux enfants. Et j'avais réussi une première fois, j'allais réussir une deuxième fois. Et après à nouveau 2 ans et demi, 3 ans de traitements et d'opérations, il y a le professeur du service PMA qui me convoque. Et au bout de 2 minutes que je suis dans le bureau avec mon mari, il m'annonce que la PMA est terminée pour moi. Et qu'en plus, je dois me faire enlever l'utérus parce que j'ai une endométriose trop importante. Donc, je vous laisse imaginer, je me suis écroulée. Et au bout de 5 jours que j'avais les larmes qui coulaient sur mon visage, il y a ma fille qui était haute comme 3 pommes, qui est arrivée devant moi et qui m'a dit « Mais je suis là, moi, maman. » Et à ce moment-là, ça a eu vraiment l'effet d'un électrochoc sur moi. Je me suis dit, OK, si je ne peux pas porter mon deuxième enfant dans mon ventre, eh bien, je vais le créer autrement. Et c'est alors qu'est né Cabinet Nitessence, mon cabinet d'hypnothérapie spécialisé donc dans les troubles de la fertilité, les parcours PMA et les grossesses. Et du coup, aujourd'hui, il me tient à cœur d'accompagner au mieux toutes les femmes qui sont dans ces parcours-là, pour les aider à réaliser leur rêve d'être maman. Et pour cela, j'ai un cabinet sur Dijon et j'ai quasiment maintenant plus de la moitié de mon activité qui se fait également en visio grâce au bouche à oreille et qui me permet donc d'accompagner où que les femmes soient. Et ça, c'est un réel avantage.
Ah, super, c'est un beau projet. Et alors, donc, tu nous as parlé donc hypnothérapie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, en quoi consiste l'hypnose? Parce qu'on entend souvent parler d'hypnose, mais finalement, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Souvent, on pense à l'hypnose de spectacle. Donc, du coup, on ne lit pas du tout d'ailleurs à l'accompagnement dans le domaine de la PMA. Donc, si tu peux nous expliquer finalement comment ça fonctionne.
Alors oui, tu as entièrement raison. L'hypnose thérapeutique, comme on peut faire en cabinet, est totalement différente de l'hypnose de spectacle. Ça n'a vraiment rien à voir quant à l'effet que ça produit. Et ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que l'hypnose de spectacle parle souvent de personnes réceptives et non réceptives. C'est un raccourci très rapide, parce que tout le monde est réceptif. Toutes les personnes sont réceptives parce que l'hypnose, c'est un état de conscience modifié qui est naturel. Et cet état de conscience modifié naturel, toutes les personnes du monde le connaissent à plusieurs reprises dans la journée. Quand l'hypnose de spectacle parle de réceptivité ou de non-réceptivité, à ce niveau-là, il est vrai que 10% de la population est ultra réceptive. Donc, les autres sont simplement réceptifs, mais il y en a 10% qui sont ultra réceptifs. Et donc, l'hypnose de spectacle, pour faire le show et l'audience, a besoin de ces 10% de personnes les plus réceptives. Et donc, véhicule cette croyance qu'il y en a qui sont réceptifs et d'autres non. Non, il y en a juste quelques-uns qui sont très réceptifs et d'autres qui ont juste une réceptivité normale. Donc ça, c'est vraiment important de dissocier ces éléments-là. Et également, un point qui est extrêmement important entre l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique, c'est que dans l'hypnose thérapeutique, on garde totalement le contrôle de soi. Le thérapeute va pas vous faire faire la poule parce que ça n'a aucune utilité. La seule utilité dans un accompagnement thérapeutique, c'est d'amener la personne à dépasser des obstacles sur certains éléments, si des obstacles se présentent, et d'apporter du mieux-être. Et finalement, avec l'hypnose, on peut aller travailler sur toute la partie émotionnelle qui dirige notre vie au quotidien, sans qu'on s'en aperçoive forcément. Cette partie émotionnelle, elle est importante et on peut aller la travailler grâce au travail sur l'inconscient. Et l'inconscient génère 90% de nos choix, de nos émotions et de nos comportements. En fait, c'est comme si notre être était divisé en deux, 10% le conscient et 90% l'inconscient. Et donc, d'aller travailler sur cette partie d'inconscient, bah, est ultra efficace puisqu'on travaille sur la partie qui dirige 90% de notre vie.
Ouais, c'est intéressant et merci pour ces explications très claires. Et je trouve qu'il y a un point que tu as abordé qui est important, c'est qu'on garde le contrôle. Parce que parfois, quand on parle
Exactement.
d'hypnose, ça peut faire un peu peur si on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai que toi, de la manière dont tu l'as expliqué, je pense que c'est très clair. Et effectivement, c'est cette notion de garder le contrôle, elle est importante. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire n'importe quoi. Voilà, il y a des protocoles et c'est une aide et il n'y a pas de danger derrière tout ça.
Exactement. Et c'est hyper important de savoir que pendant l'hypnose, on ne dort pas. On n'est pas dans un état inconscient. On va travailler avec l'inconscient. Mais la personne sous hypnose est totalement capable de se moucher, de s'essuyer les yeux s'il y a des larmes qui coulent selon les sujets que l'on travaille. Et elle a vraiment son plein pouvoir. C'est simplement qu'on dépasse les limites du conscient pour aller travailler avec l'inconscient et donc sur cette partie conséquente de nous-mêmes. Mais ça reste, la personne qui consulte reste totalement libre et dans son plein pouvoir.
Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se déroule une séance?
Bien sûr. Alors, moi, je vais parler un petit peu de l'organisation, ma propre organisation des séances. Moi, je dissocie la première séance des séances suivantes. La première séance, en principe, elle se déroule en trois temps. Le premier temps, c'est un temps d'échange et d'écoute sur le parcours de la personne, sur ce qu'elle a pu vivre dans ses problèmes d'infertilité et même dans son parcours de vie au sens large pour pouvoir comprendre un petit peu comment elle s'est construite, comment elle en est arrivée là, comment elle vit les choses. Donc, il y a toute une partie d'échange à ce niveau-là. Ça permet aussi de se sentir de plus en plus en confiance, en sécurité. Et ça, c'est indispensable pour pouvoir démarrer une séance d'hypnose et de pouvoir se rentrer dans cet état hypnotique de façon le plus sécurisée, de façon la plus sécurisée. Donc voilà, il y a toujours ce temps d'échange qui parfois peut durer 3 quarts d'heure, 1 heure. On prend vraiment le temps. C'est un temps où la personne, elle peut déposer tout ce qu'elle a à déposer. Dans un second temps, on va échanger autour de l'hypnose. Donc je prends le temps de répondre aux questions de la personne. Et puis, à ce niveau-là, il n'y a pas de remarques ou de questions bêtes. Je trouve que c'est vraiment important de pouvoir échanger en profondeur sur ces éléments-là, sur les pensées que la personne peut avoir autour de l'hypnose. Bah, pareil, pour faire sauter les obstacles qui sont inutiles et du coup entrer en hypnose plus facilement. Et dans un troisième temps, on fait la séance d'hypnose et c'est pour ça que la première séance dure entre 1h45 et 2 heures à peu près, parce qu'il y a ces trois parties, la prise de connaissance, l'échange, la partie explication hypnose et questionnement sur l'hypnose, et puis la partie hypnose en elle-même. Et les séances suivantes, eh bien, elles durent environ 1 heure, puisqu'on n'a plus toute la partie échange et explication de l'hypnose. Et puis, donc, on a une petite partie où on va pouvoir discuter sur la séance précédente et puis sur ce qui s'est passé entre les deux séances, pouvoir faire la séance d'hypnose et puis changer après la séance d'hypnose si la personne le souhaite. Là encore, c'est libre à chaque personne. Il y a des personnes qui ont envie de partager ce qu'elles ont pu voir, entendre, ressentir pendant la séance d'hypnose et d'autres absolument pas. Et voilà, tout est OK à ce niveau-là. Moi, je m'adapte vraiment à la personne et à son type de fonctionnement.
Et dans le parcours de PMA, finalement, à quel moment tu recommandes de prendre une séance aussi, un moment particulier recommandé?
Alors, si je pouvais dire dans l'idéal, ce serait au début du désir bébé et avant de démarrer le parcours de PMA ou juste au démarrage, en fait, pour pouvoir vivre ce parcours le plus facilement et le plus sereinement possible. Maintenant, j'ai des personnes que j'accompagne et qui sont à tout type de moment de leur parcours. Donc, finalement, c'est quand on se sent prêt aussi de pouvoir aller travailler sur nous, que bah, c'est le bon moment pour se faire accompagner.
Et sur quel type de sujet justement tu peux accompagner les personnes qui sont en désir d'enfant de manière un peu plus concrète?
Alors, exactement. C'est vraiment très large. Donc, comme je l'ai dit, je peux intervenir à toutes les étapes du protocole de PMA ou de désir d'enfant. J'avance en fait avec la personne main dans la main et on travaille bah, sur la gestion des émotions, des peurs, parfois sur les autorisations à se donner. Donc ça peut être vraiment bah, l'autorisation d'être maman. Alors ça peut paraître bateau comme ça. On se dit bah oui, si je suis dans un parcours de PMA, c'est que de toute manière je veux être maman. Mais c'est pareil, là encore, il y a une partie de nous derrière, en arrière-plan, qui peut, par rapport au passé qu'on a eu, par rapport aux différentes expériences, aux différentes épreuves qu'on a pu traverser, venir verrouiller certains éléments et donc aller travailler sur l'autorisation d'être maman à sa façon, surtout quand il y a eu des problématiques avec les parents. C'est hyper important de pouvoir venir poser ça là. On peut également travailler sur des événements particuliers. Il y a des personnes qui ont des difficultés à être enceintes. Elles sont passées soit par une IVG, soit par une agression sexuelle, soit par ce qu'on appelle une fausse couche, alors que moi j'appelle grossesse arrêtée, parce que clairement, fausse couche, il n'y a rien de faux dans ce qu'on vit dans ces moments-là. Et tous ces éléments-là et bien d'autres encore peuvent venir meurtrir le corps et créer certains obstacles. Et donc de pouvoir aller travailler dessus, ça permet de les dépasser et de pouvoir s'ouvrir à être maman. Voilà
D'accord.
un petit peu après au niveau de... on peut travailler également sur des paroles qu'on a pu entendre. J'ai des personnes qui viennent me voir par rapport, alors soit des paroles de l'entourage, de la famille, soit des fois des paroles, certaines paroles du corps médical qu'elles ont interprétées avec beaucoup de violence et donc par rapport à leur propre parcours. Et donc on vient également, comment dire, on vient travailler autour de ces paroles-là pour leur enlever le poids qu'elles peuvent avoir dans leur désir d'être maman. Et on peut également travailler sur tout ce qui est loyauté inconsciente. Par exemple, j'ai des personnes, des femmes qui viennent me voir en me disant, de toute manière, dans ma famille, toutes les grossesses ont été compliquées. Dans ma famille, on a toujours fait des fausses couches. Dans ma famille, les accouchements ont toujours été ultra pénibles. Et on peut venir mettre un terme en fait à ces schémas limitants qui peuvent à leur tour faire obstacle dans le désir d'être maman. Voilà un petit peu dans les grandes lignes, mais on peut vraiment aborder toutes sortes de sujets en fonction du vécu de la personne et en fonction des ressentis de la personne.
Ouais, parce que finalement, dans le parcours de PMA, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de sujets qui touchent. Il y a beaucoup aussi, je pense, que de choses dont on ne se rend pas compte, de choses que l'on se dit, voilà, de situations qui se sont passées ou autres et qui créent un poids, qui font que bah, on a un parcours bah, qui est déjà compliqué et qui pourrait être, bah, comme tu disais, plus facile, plus serein. Mais parfois, soi-même, c'est difficile en fait d'en avoir conscience. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant quand tu nous décris un petit peu voilà, les sujets, les situations, les choses qu'on peut travailler, que tu peux travailler en hypnose avec les personnes que tu accompagnes. Parce que c'est vrai que parfois, bon, bah, vu de l'extérieur, finalement, on ne sait pas trop. Et je ne sais pas si, par exemple, peut-être parfois, tu as des personnes qui te contactent, qui vont pas trop bien dans leur parcours, mais finalement, qui savent pas vraiment le pourquoi. Finalement, pourquoi elles se sentent pas très bien? Qu'est-ce qui fait que, alors on sait que c'est lié au parcours, mais qu'est-ce qui fait qu'on vraiment on va pas bien? Comment on peut faire pour changer la situation et que ça aille mieux justement? Et ça aussi, c'est super intéressant avec l'hypnose parce que ça permet de révéler toutes ces choses-là depuis l'inconscient
Exactement.
dont tu parles.
Ex Voilà, exactement. Et c'est totalement juste ce que tu dis. C'est qu'il y a des personnes qui arrivent et qui me disent, mais en fait, je ne sais pas ce qui bloque. Et ce qui est intéressant avec l'inconscient, puisque c'est l'inconscient qui génère 90% de notre vie, bah, c'est d'aller lui demander directement. Et quoi de mieux que de passer par l'hypnose pour ça? Voilà, c'est vraiment un état naturel. On vient créer l'état hypnotique et on va questionner l'inconscient. Alors, des fois, il va apporter des réponses, des fois, il n'en apportera pas. Mais après tout, c'est secondaire puisque le principal, c'est qu'il déverrouille ce qu'il y a à déverrouiller. Et même si les éléments restent à l'inconscient, le travail se fait. Donc, c'est là le plus important et le plus impactant. Et ça se fait tout en douceur grâce à l'hypnose. Donc c'est vraiment un outil que je trouve extrêmement puissant et naturel.
Bah, merci de nous avoir expliqué voilà, tout ça parce que je pense que ça aide vraiment à la compréhension de comment l'hypnose hein, peut aider dans ce parcours et c'était vraiment bah, le sujet hein, de ce podcast aujourd'hui et pour ça aussi on pensait que c'était intéressant que tu puisses intervenir sur ce sujet parce que bah, nous on reçoit beaucoup de patientes et c'est vrai qu'on accompagne d'un point de vue médical mais c'est vrai qu'on a conscience qu'il y a tout un aspect aussi émotionnel, mental autour de ce parcours et c'est vrai que le fait voilà, d'avoir la possibilité de bénéficier de ce type d'accompagnement c'est vraiment une chance et moi ce que j'avais envie de te demander voilà, pour terminer cette épisode, c'est bah, finalement quel message tu aimerais faire passer voilà, à ces personnes qui nous écoutent et puis bah, qui sont en parcours de PMA.
Alors, le premier message, c'est vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est hyper important. Vous n'êtes pas obligé de subir chaque jour qui passe et de vous renfermer de plus en plus sur vous-même. Il est possible, bah, du coup, d'avoir recours à des outils tels que l'hypnose pour vous aider dans votre cheminement et dans votre réalisation de votre rêve d'être maman. Et finalement, le plus important, au-delà de l'outil, c'est de trouver l'accompagnant ou la thérapeute là où le qui vous convient, avec lequel vous vous sentez en confiance et qui, avec qui le feeling passe. Et ça se discute. Il y a juste à faire confiance à ses ressentis et à laisser parler son cœur. Et quand c'est le bon moment, d'oser, les mains tendues, d'oser saisir les mains tendues et de pouvoir se faire aider pour vivre au mieux son parcours.
Merci Clotilde. Et bah, d'ailleurs, si on veut te contacter, comment faire?
Alors, le plus simple, c'est de me contacter en passant par mon site internet. Et mon site internet, c'est www.cabinet, le tiret du 6, nitescence, nitescence, .fr. Et sur mon site, il y a un onglet contact. Et donc, comme ça permet à la personne de remplir ses coordonnées. Et j'ai toujours à cœur de prendre le temps d'échanger avec la personne par téléphone à chaque demande de renseignement. Donc voilà, la personne peut simplement me laisser ses coordonnées. On s'appelle et on échange. Et voilà, ça n'engage absolument à rien derrière. Mais ça me permet de répondre aux questions des personnes et qu'elles puissent après faire leur choix en fonction de ce qui est le mieux pour elles.
D'accord, très bien. Bah, merci Clotilde, merci à vous de nous avoir écoutés Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes de Barcelona IVF. Et puis, Clotilde, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à la contacter. Elle sera là pour vous répondre. Et merci encore pour ta bienveillance et à très bientôt.
Avec grand plaisir. Au revoir à tous.
On Fertile Minds, the Barcelona IVF podcast.